Introduction à la lecture de l'écriture sainte, Père Philippe, 3 novembre 1982, Rimont.
On pose ici cette question, d'après ce que saint Thomas affirme sur les différents sens de l'écriture, littéral, allégorique, moral, anagogique, ne peut-on pas élaborer à partir de ces quatre points de vue, quatre parties de la théologie ? Ce qui réhabiliterait une théologie biblique pour 1 et 2 allégoriques, théologie morale pour 3, théologie mystique pour 4. Et la théologie scientifique, ce qui n'exclurait pas la théologie scientifique, qui, elle, se servirait de toute la philosophie, surtout la métaphysique. Toute théologie se sert de la philosophie. Prenez pas la théologie, c'est un aspect descriptif de l'écriture, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. L'essence de l'écriture, c'est pas la même division, hein. C'est intéressant comme question, parce que ça vous oblige de mieux comprendre. La perspective de saint Thomas et des pères de l'Église, c'est de voir que la parole de Dieu a une signification qui n'est jamais simple, à la différence d'un langage humain. Déjà dans le langage humain, quand on est en présence, si vous voulez, d'un langage poétique, un langage poétique et symbolique a diverses significations. Il n'a pas qu'une seule signification. Il y a le langage prosaïque, d'ordre tout à fait commun. Alors évidemment, quand vous voulez acheter un chou, ça a la valeur du chou. C'est pas symbolique. C'est pas... Mais dès que vous êtes dans un langage poétique, ce langage poétique a des significations diverses. Or, le langage de l'écriture est toujours poétique. Il est toujours symbolique. Toute parole de Dieu est symbolique. Parce que le mystère n'est pas contenu et signifié immédiatement par la parole. Notre langage, il s'est élaboré à partir des réalités concrètes, des réalités communes. Tandis que le langage divin, il nous conduit toujours à Dieu. Et c'est pour ça que ce qu'on dit, le langage, la signification de la parole de Dieu, c'est à l'intérieur du problème de la signification. La signification de la parole de Dieu a signification littérale. Ça veut dire telle chose particulière, tel fait. Allégorique, ça veut dire qu'il est pris de façon symbolique. Moral, ça veut dire qu'il regarde toujours l'homme. Anagogique, ça veut dire qu'il nous élève. Mais toute parole divine a ses différentes significations. Mais c'est à l'intérieur même de la parole de Dieu que nous pouvons toujours discerner ses différents sens. Donc on ne peut pas, à partir de la diversité des sens, voir la diversité de la théologie. Pourquoi ? Parce que la théologie, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu reçue dans l'intelligence humaine, par la foi, reçue dans la foi, et l'intelligence humaine est au service de cette parole de Dieu pour expliciter toute la richesse de la parole de Dieu. Alors, je veux bien que dans la théologie scientifique, le langage, le sens littéral soit plus mis en lumière. Que dans la théologie mystique, le sens allégorique soit plus mis, ou anagogique, soit plus mis en lumière. Mais je ne peux pas diviser les différentes théologies à partir des sens de l'écriture. Et c'est ça simplement qu'il faut se rappeler. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Parce que c'est pas si commode que ça à bien saisir. On le verra progressivement du reste. Hein. Parce qu'il faudrait... Ceux qui ont déjà fait un peu de théologie scientifique, j'espère, voient un peu ce que c'est que la théologie scientifique de saint Thomas. C'est la théologie scientifique de saint Thomas qui sert d'axe. C'est un axe. Pour nous. Avant que la théologie scientifique de saint Thomas soit donnée, on était dans l'ordre de la recherche théologique. C'était pas encore structuré. Tandis que saint Thomas nous donne l'axe. Vous voyez, un petit peu comme, tant que la métaphysique n'était pas découverte, la philosophie ne pouvait pas avoir ses diverses parties. C'est le même problème. C'est grâce à la découverte qu'Aristote fait de la philosophie première que immédiatement on voit les diverses parties de la philosophie. Eh bien, au point de vue théologique, c'est la même chose. Dès que saint Thomas découvre la théologie scientifique, je peux immédiatement, à partir de là, découvrir les diverses parties de la théologie, les diverses modalités de la théologie. Avec la différence, c'est que la théologie possède une unité plus profonde, une unité plus profonde que la philosophie, parce que c'est une unité qui vient de la foi. Mais toute partie de la théologie implique nécessairement un apport philosophique. Même la théologie biblique, c'est un apport philosophique. Je sais très bien que beaucoup aujourd'hui, pour la théologie biblique, diraient que la théologie biblique est en dehors de la philosophie. C'est impossible, c'est plus de la théologie. La structure de la pensée n'est pas modifiée par la foi. Et donc, pour essayer d'entrer dans la théologie qui implique une connaissance scientifique et une connaissance de sagesse, il faut nécessairement faire appel à différents aspects de la philosophie. Et ces différents aspects de la philosophie vont expliciter les sens de la parole de Dieu et les divers sens de la parole de Dieu à Saint-Louis. Parce que dans toute parole divine, je peux découvrir un sens littéral, un sens allégorique, un sens moral, un sens anagogique. Alors évidemment, vous comprenez bien, quand il est dit, je ne sais pas, au commencement, ah, sens littéral, sens... prenez la proposition, hein, c'est évident, autrement ça ne va plus du tout. On le verra progressivement, ça, de temps en temps. Donc, nous allons essayer ensemble, hein, c'est ce que nous allons faire, de regarder successivement, avec plus ou moins de rapidité, les différents livres de l'Écriture, en essayant d'entrer dedans pour en profiter. Ce que nous faisons ensemble, je voudrais que vous le continuiez après vous-même, parce que c'est ça qu'on doit faire. On doit arriver à lire l'Écriture en enfant de Dieu, avec le plus d'intelligence possible. Alors, je ne vais pas faire nécessairement des introductions exégétiques, je laisse ça aux professeurs d'exégèse, n'est-ce pas ? Et nous faisons, si vous voulez, une théologie plus que biblique, puisque c'est au fond une théologie, une lecture en profondeur de la parole de Dieu. Alors, le leitmotiv qui va nous servir de conduite, c'est de voir que chaque fois, c'est ce que je vous disais la dernière fois en terminant, chaque fois que Dieu nous révèle son mystère, il révèle à l'homme ce qu'il est. Et chaque fois qu'il révèle à l'homme ce qu'il est, il nous révèle son mystère. Autrement dit, anthropologie et théologie ne font qu'un. Et je ne peux pas les séparer. Vous voyez, ce serait intéressant dans cette lecture que nous faisons, puisque nous la faisons aussi en tant que philosophe, ce serait intéressant de voir la philosophie qui est impliquée dedans. Et ça, je le ferai après. Est-ce que nous allons découvrir en lisant l'Écriture de cette manière, est-ce que nous allons découvrir une philosophie implicite? Vous savez, Madame Amado, qui enseignait en Sorbonne, qui maintenant enseigne à Israël, elle est une Israélite pure et elle est philosophe. Et au fond, Madame Amado essaie de découvrir à travers toute la Bible une philosophie qui soit une philosophie révélée. Comment, à travers la Bible, pouvons-nous découvrir une vision de l'homme? Moi, je me place à un point de vue plus théologique. Comment, à travers l'Écriture, pouvons-nous avoir une vision de l'homme toujours relative à Dieu? Dans la foi, l'ontologisme est vrai. Mais seulement dans la foi. Dans la foi, il est vrai de dire, chaque fois que Dieu nous parle de l'homme, il nous parle de lui. Et que je ne peux découvrir l'homme que dans la lumière de Dieu. Alors nous allons commencer, si vous voulez, parce que je ne veux pas faire trop d'introduction. Je m'arrêterai successivement. N'hésitez jamais à mettre vos questions. Vous savez bien que traditionnellement, on parle du Pentateuque, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Bon, nous regarderons d'abord le Pentateuque. C'est bien évident que c'est le premier livre à regarder, plus ou moins vite. Hein. Le Lévitique, je ne dis pas avec vous que je l'analyserai dans tous ses éléments, parce que je crois que vous dormiriez assez vite. Alors, mais c'est un très beau livre, le Lévitique, c'est un livre très intéressant. Et le livre des Nombres également. C'est ce qui nous intéresse plus, c'est l'Exode et le Deutéronome. Parce que ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très beau. Vous voyez que ces cinq premiers livres prennent dès le commencement jusqu'à la mort de Moïse. Première étape. Il faut ponctuer progressivement. Hein. Première étape. Du commencement à la mort de Moïse. Bien, si vous regardez cela, vous voyez que les 11 premiers chapitres de la Genèse, que nous allons voir maintenant, que j'aime beaucoup, que le pape aime énormément, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont préhistorique. Mais l'Église nous a dit que les 11 premiers chapitres de la Genèse nous racontaient quand même des faits réels. Mais ils sont préhistoriques, c'est-à-dire que je ne peux pas les atteindre avec une méthode historique. On cherche toujours l'arche de Noé. On la cherche. Je crois qu'on la cherchera très longtemps. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on la retrouve avec la colombe dedans. Ce serait très très beau de retrouver l'arche de Noé, mais je ne crois pas qu'on la retrouvera. Je crois que c'est quelque chose de préhistorique. Si c'est préhistorique, ça a une valeur métaphysique. C'est-à-dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse vont nous donner une vision très particulière et très fondamentale sur l'homme pécheur, sur l'homme religieux, sur l'homme créé à l'image de Dieu. Et je crois que c'est capital, ça. Vous voyez, aujourd'hui, on ne les regarde plus, les 11 premiers chapitres de la Genèse. Pour moi, c'est la crypte de toute l'Écriture. Et les 11 premiers chapitres de la Genèse étant la crypte de l'Écriture, si on ne les regarde plus, on ne comprend plus l'édifice. Une crypte, c'est très très important. Vous savez bien, c'est très important une crypte. Je vous ai déjà raconté ce petit épisode de la crypte d'Auxerre, Saint-Germain, à Auxerre. Quand vous arrêterez là, arrêtez-vous à cette petite église magnifique du XIIe siècle et à cette crypte du VIIe. L'église est magnifique parce qu'elle est du XIIe, alors c'est d'une pureté, d'une limpidité extraordinaire, et la crypte est très très belle. Alors il y a là un sacristain, je ne sais pas s'il vit encore, parce que, mais tu voudrais-il que moi je rencontrais ce sacristain qui s'occupait beaucoup de cette crypte et qui pendant l'hiver essayait de redécouvrir les nerfs, les veines premières de ce que représentait cette crypte en enlevant tous les vernis. Mais alors il connaissait bien sa crypte, il connaissait bien les vernis. Il y avait un vernis qui ne s'en allait jamais. Alors je lui ai demandé lequel. Alors il m'a dit le vernis du XVIIe siècle. C'est celui-là, il s'enlève très très difficilement. C'est impossible à enlever. Alors je sais, ça m'amusait beaucoup. Le vernis du XVIIe siècle, c'est très difficile à enlever. Et c'est vrai que le vernis du XVIIe siècle est très difficile à enlever. Eh bien, ce que nous allons faire en regardant les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est la première chose que je ferai. Je m'attarderai, on a tout le temps, toute l'écriture. On a du temps devant nous. Et c'est bon d'entrer dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Ça m'intéresse particulièrement parce que c'est métaphysique. C'est quelque chose de fondamental. Alors on va enlever tous les vernis et essayer de découvrir ce que ça veut dire. Pour nous, la signification pour nous, cette vision extraordinaire des 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors je crois que le mieux, c'est de lire, et puis de temps en temps je m'arrête. Si vous avez des questions, ne levez pas tout de suite la main, j'aimerais beaucoup mieux que vous écriviez ça sur un petit papier, n'est-ce pas? Et puis que vous me le donniez pour la fois suivante. Vous savez très bien que les théologiens, les exégètes plus exactement, ont dit deux récits de la Genèse, deux récits de la création, un récit yaviste, un récit éloïste. C'est très intéressant de mettre des étiquettes, mais ça n'avance à rien du tout, hein. Pourquoi Dieu nous donne-t-il deux récits de la création? Oui, je me pose souvent la question du pourquoi. Tandis que les exégètes, c'est la question du comment. C'est le cas remarqué. C'est la question du pourquoi. C'est en ça que je fais de la théologie. Parce que la théologie pose la question du pourquoi. Pourquoi l'aveugle de naissance? Pourquoi l'aveugle de naissance? Alors que les apôtres demandaient comment l'aveugle de naissance? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est lui? Et Jésus dit pourquoi? Donc Jésus nous apprend à lire l'écriture et les événements. C'est toujours pourquoi. Quand vous cherchez le comment, ça ne va jamais très loin. Et vous tombez dans un positivisme. Tandis qu'au contraire, quand vous posez la question du pourquoi, ça va beaucoup plus loin. Alors le comment, c'est de dire oui, il y a un premier récit, un récit Elohim, parce qu'on parle de Elohim, et un récit yaviste, parce qu'on parle de Yahvé. Très bien, c'est très vrai, c'est très juste, c'est très vrai. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Pourquoi le Saint-Esprit se sert-il de deux traditions religieuses pour nous donner le récit de la création? Je crois qu'on peut répondre. C'est pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule perspective, qu'il y a deux perspectives. Plus on regarde quelque chose d'important, plus il faut d'avoir deux perspectives. Vous savez bien que le philosophe a inventé, lui, deux perspectives pour regarder toutes les réalités. Alors c'est curieux de retrouver le style de Dieu. Le philosophe a inventé deux perspectives pour regarder les réalités. La perspective génétique et la perspective de finalité. Aristote a deux perspectives quand il veut comprendre quelque chose. Il essaie de comprendre un aspect génétique, quel est le point de départ. Et puis, un aspect de perfection dans la lumière ultime et dernière. Enfin, pour chacun d'entre vous, je peux... C'est la méthode que de certains spirituels, certains, on va dire comme ça, « Tiens, racontez-moi d'abord votre histoire. Hein. » Dites-moi toutes les péripéties de votre histoire, selon les couches successives. Hein? Première couche, l'enfance jusqu'à 12 ans, puis après de 12 ans à 16 ans, puis après de 16 ans à 20 ans. Alors on voit toutes les couches, toutes les rencontres. On peut faire ça. Et on arrive à connaître un peu une personne génétiquement. Ou on peut essayer, au contraire, de la comprendre directement par ce qu'elle vit actuellement. Oui, deux perspectives différentes. La perspective du psychologue est toujours génétique. La perspective de Dieu, elle est du côté de la perfection. Les deux aspects, les deux ordres possibles pour toute la réalité. Un ordre génétique, la génésis, on regarde la genèse, une réalité, et puis on regarde sa perfection. Alors c'est quand même curieux de voir que au point de vue philosophique, hein, je vous dis, la philosophie nous aide à comprendre l'écriture, hein, parce que la philosophie aiguise un peu notre intelligence. Or, de fait, Dieu ne nous donne pas une nouvelle structure de pensée. Il respecte parfaitement la structure de pensée, la nôtre. Alors, c'est quand même curieux, si nous avons une double manière de regarder les réalités, que Dieu nous donne deux récits de la création. C'est peut-être parce que, justement, nous avons besoin de regarder les réalités qui nous dépassent dans deux perspectives. Quelquefois, il y aura plus que deux. Ici, il y en a deux. Ça, c'est sûr, il y en a deux. Mais si je regardais toute l'écriture, je verrais qu'il y en a plus que deux. Mais au moins au point de départ. Je reviendrai après sur les autres. Hein. Je regarde le point de départ. Il y a deux récits de la création. Je crois que le premier est beaucoup plus élaboré. Et le second est beaucoup plus primitif. Et je dis ça tout simplement en regardant le langage symbolique dont Dieu se sert. C'est un des petits principes que donne Denis, que chaque fois que Dieu veut nous révéler un secret plus grand, il emploie un symbolisme plus grossier. J'aime beaucoup ce principe d'exégèse. Ça n'a rien à voir avec l'exégèse dite scientifique. Mais ça a beaucoup de choses avec l'exégèse dite de sagesse. Alors là, c'est très important. Chaque fois que Dieu veut nous révéler un secret, il nous donne un symbolisme plus grossier, pour que la réalité soit plus cachée. Alors, nous avons donc, au point de départ, deux récits de la création. Le premier récit, beaucoup plus évolué, va de fait nous montrer la création sur les 7 jours. L'ordre des 7 jours, l'ordre du temps, c'est l'ordre le plus primitif qui est en nous. Un enfant va commencer à ordonner les choses par le point de vue du temps. Nous nous sommes tellement habitués qu'on ne s'en occupe plus. Cependant, on vit selon l'ordre du temps. L'ordre de la semaine, l'ordre du jour, il y a 10 heures différentes. Il y a l'ordre de la semaine, il y a l'ordre des mois, il y a l'ordre des années. L'ordre du temps. Et c'est très curieux, à travers toute l'écriture, vous trouvez l'ordre du temps. Le premier récit nous donne un ordre de la création selon l'ordre du temps. Le second récit va, lui, avoir un autre ordre, beaucoup plus subtil et difficile à découvrir. Alors, on le découvrira. Mais je mets simplement point d'interrogation, point de départ, pour que nous découvrions la signification de ces deux ordres. Alors, vous voyez, je prends tout de suite ce point de vue-là. Constamment, je fais des allusions à la philosophie pour vous montrer que la philosophie nous sert à lire l'écriture. La méthode exégétique, c'est la philologie. Nous, nous prenons une méthode philosophique, à la manière des pères de l'Église. Vous voyez ? Et ça nous donne une perspective qui va beaucoup plus loin, forcément. Nous avons donc l'ordre génétique. L'ordre génétique, c'est l'ordre selon le temps. Alors, ce qui me semble très intéressant, c'est que le premier récit de la création, c'est tout à fait l'ordre génétique. C'est l'ordre selon le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6. Alors, 6 c'est capital, et 7e on se retrouve. C'est normal, hein. Il faut quand même le 7e jour, c'est normal. Un ordre génétique selon le temps. Second récit. Non, je vais dire avant. Le second ordre que prend le philosophe, l'ordre de perfection, ou on dira l'ordre de nature, peu importe, l'ordre de perfection, c'est l'ordre de la finalité. C'est plus le temps, c'est autre chose. La finalité n'est pas dans le temps. Il y a des gens qui ont l'âge de raison à 7 ans, il y en a qui l'ont à 40 ans. Hein? C'est l'ordre génétique. C'est très différent. Et l'ordre de nature, on sait très bien, c'est quelque chose de particulier. Eh bien, le second récit, je crois, je dis je crois, on verra, que c'est l'ordre de perfection. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à découvrir. C'est beaucoup plus. Oui, alors à ce moment-là, si ceci est vrai, c'est merveilleux. Dieu va s'adapter merveilleusement à notre double manière de regarder l'homme et la femme. Parce que, en définitive, il s'agit de regarder l'homme et la femme. Là, il est créé en même temps, dans une même heure. Et il y a 5 jours d'attente avant de voir arriver l'homme et la femme. 5 jours d'attente. Et quand ils sont là, on se repose. Parce que le chef-d'œuvre de Dieu est là. Alors, on voit cet ordre génétique qui est extraordinaire, l'ordre du temps. Et le temps intervient. Tandis qu'ici, qu'est-ce qu'il y a ? C'est chaotique. Dès qu'il y a de la terre, de l'eau, immédiatement Dieu forme le corps de l'homme. Et il met très longtemps avant de former le corps de la femme. C'est quand même curieux, ça. C'est pas tout à fait la même chose. Oui ? Alors, il s'agit de comprendre. C'est pas du structuralisme que je fais avec vous. Hein. C'est essayer de comprendre. Parce que le structuralisme ferait des choses comme ça. Parce que le structuralisme emploie une philosophie. Mais le structuralisme n'a pas l'ordre génétique et l'ordre de perfection hein, dans le structuralisme. On n'a qu'un seul ordre, le structuralisme. Tandis qu'au contraire, ici, il y a deux ordres. Il y a l'ordre génétique et l'ordre du devenir. Le devenir est dans le temps. Et ici, l'ordre de perfection. Ce n'est pas l'ordre de l'être, c'est l'ordre de perfection. C'est l'ordre de la volonté. Alors, je pose cette question que nous essayons de comprendre. Je vois deux récits, il y a deux récits de la création. Et les deux récits de la création consistent à regarder dans la lumière de Dieu ce qu'est l'homme et la femme. C'est dans la lumière de Dieu, parce que c'est dans la lumière de Dieu. Dieu me donne une lumière pour que je comprenne qu'est-ce que c'est que l'homme dans la vue de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la femme dans la vue de Dieu. Alors, c'est cette lumière divine qui m'est donnée. Alors, l'ordre génétique, c'est facile. C'est pour ça que Dieu commence par l'ordre, vous comprenez. C'est beaucoup plus facile. Tout le monde comprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est facile à comprendre. Tandis qu'ici, c'est chaotique. C'est chaotique, mais c'est beaucoup plus ordonné. Quand je dis c'est chaotique, d'une certaine manière, le structuraliste sera tout à fait à l'aise ici. Il ne sait plus du tout. Parce que c'est la perfection. C'est la finalité. Tandis que dans l'ordre génétique, c'est très facile. Alors, si vous mettez deux étiquettes, yaviste, éloïste, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas la finalité. Vous voyez tout simplement deux traditions qui sont données, et le Saint-Esprit s'est servi de ces deux traditions. Il y en aurait trois, ou il pourrait y en avoir trois. Il y en aurait quatre, il pourrait y en avoir quatre. Non, il y en a deux. Et je comprends l'ordre génétique, l'ordre d'interprétation. Alors, vous allez voir, hein, parce que ça, il s'agit de comprendre. Au commencement, je lis le texte parce que j'aime mieux le lire avec vous, hein, parce que comme ça je suis plus sûr. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous connaissons ça parfaitement. Or, la terre était un chaos. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Cherchez pas trop, hein, un ordre logique. C'est en ce sens-là qu'on dira que c'est un mythe. Évidemment, c'est d'une certaine manière un langage mythique. Je dirais un langage mythique. Ce n'est pas un mythe au sens propre. C'est un langage mythique. C'est-à-dire, c'est un langage d'un symbolisme au carré. On veut dire quelque chose de tout à fait fondamental. Puisqu'on veut montrer qu'est-ce que c'est que le point de vue de la création. Ce n'est pas commode d'exprimer ce que c'est que la création. Parce que c'est une action qui ne présuppose aucune autre action. C'est une action qui se fait à partir de rien. Vous voyez, on ne dit pas du tout, au commencement, Dieu crée à partir de rien. Alors ça, c'est beaucoup trop évolué. L'Écriture mettra très longtemps avant de le dire. Donc on est dans un langage symbolique qui veut nous faire comprendre la profondeur de cette action. Dieu créa le ciel et la terre. On comprend très bien les deux extrêmes, le ciel et la terre. Or la terre, puisqu'il faut commencer par la terre, on commence par l'imparfait. La terre était un chaos. Oui, la terre n'a jamais été créée comme chaos. C'est possible qu'elle était au point de départ un chaos, la terre. Elle était un chaos et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a le chaos, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et puis il y a l'Esprit de Dieu. Vous trouvez les trois. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, nous voyons tout de suite que ce premier récit, qui est d'ordre génétique, commence par montrer que l'acte créateur de Dieu se fait par sa parole. Dieu dit que la lumière soit. C'est le premier moment où, vous voyez, où Dieu dit. On a dit avant, Dieu créa le ciel et la terre, oui, d'une façon tout à fait générale, Dieu crée le ciel et la terre, pour montrer qu'il crée tout. Mais on précise ensuite, et c'est la première précision, la première création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ceci qualifie par le fait même l'acte créateur de Dieu. L'acte créateur de Dieu est un acte qui se fait par la parole. La parole de Dieu est efficace. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Première séparation. Si vous voulez, c'est la seconde. La première, c'était le ciel et la terre. Et la seconde est semblable, d'une certaine manière, mais avec une précision plus grande. c'est le point de vue de la lumière et des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Vous voyez, on pourrait s'intéresser beaucoup, hein, ce serait très intéressant à étudier ce premier jour. Mais c'est le premier, donc c'est le plus imparfait. Et on sent très bien qu'on est dans l'ordre de l'imperfection. Il y a le chaos. Rien n'est plus imparfait que le chaos. Oui, on pourrait s'intéresser beaucoup, hein, ce serait très intéressant à étudier ce premier jour. Mais c'est le premier, donc c'est le plus imparfait. Et on sent très bien qu'on est dans l'ordre de l'imperfection. Il y a le chaos. Rien n'est plus imparfait que le chaos. Et tout a commencé par le chaos. Tout a commencé par le chaos. Toutes les vieilles, les vieux récits mythiques commencent toujours par le chaos. Rien n'est plus imparfait. C'est normal, selon l'ordre génétique, on commence par ce qui est le plus imparfait. Qu'est-ce qui est le plus imparfait? C'est le chaos. On ne dit pas si le chaos vient de Dieu ou pas. On ne dit pas. On dit simplement Dieu crée le ciel et la terre. Puis il y a le chaos. Et bien alors on voit à partir de là la première division. C'est ça qui est intéressant. La première division. Et la première division, c'est la lumière et les ténèbres. Alors ça c'est très important parce que ce sera une division qui va revenir à travers toute l'écriture. Vous allez la retrouver dans le prologue de Jean. Mais d'une autre manière, tout à fait différente. Alors vous avez la lumière. Et puis les ténèbres. Première division. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on voit tout de suite que l'acte créateur de Dieu, c'est la parole. Dieu crée par sa parole. Dieu crée par sa parole et il crée selon un certain ordre. Un ordre de sagesse. Alors, le premier jour, le point de vue de la lumière et des ténèbres. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Vous voyez la seconde division. C'est intéressant de voir le procédé qui est impliqué dedans. C'est très très primitif. Hein. La division pour nous c'est quelque chose de tout à fait élémentaire. Et on voit que ce procédé de la division est là constamment pris. Donc, qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont en dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et nous sommes au second jour. Second jour, c'est pour le ciel. Et le ciel, le firmament, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Seconde division, procédé de seconde division. C'est très simple comme procédé, c'est magnifique comme manière d'ordonner. C'est Dieu qui ordonne et qui nous apprend à travers là de regarder que le monde est ordonné. Vous voyez, les Grecs appelaient cosmos un monde ordonné. Ici, on nous montre la manière dont Dieu lui-même intervient pour mettre un ordre dans les réalités que nous voyons. Dieu dit que les eaux de dessous le ciel s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse ce qui est sec. Il en fut ainsi. Ce qui était sec, Dieu l'appela terre. Alors, on va apparaître le sec. C'est la terre. Et selon les vieilles mythologies, l'eau est antérieure à la terre. Et la terre se définit en fonction de l'eau. Puisque c'est l'humide qui est premier. C'est l'eau joue un rôle très important quand vous essayez de regarder ici. Vous voyez que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et puis on rassemble les eaux, et à partir de là apparaît quelque chose qui est le sec. Et il fut ainsi, ce qui était sec, Dieu l'appela terre, et l'amas des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise la verdure. Ah, voilà qu'apparaît la vie. Il y a un premier ordre d'un cosmos qui est uniquement le point de vue du ciel, de la terre, des mers, des eaux rassemblées. Et le point de vue de la vie apparaît ensuite. Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant semence, des arbres fruitiers donnant selon leur espèce des fruits qui ont un nœud leur semence sur la terre. Vous voyez que tout de suite la vie apparaît avec la fécondité. On ne peut pas séparer bibliquement vie et fécondité. Ça c'est capital à comprendre. Hein? Et c'est dit explicitement. Oui. C'est que la vie et la fécondité ne font qu'un. La vie est nécessairement féconde. Que la terre produise de la verdure, de l'air portant semence, des arbres fruitiers donnant, selon leur espèce, des fruits qui ont en eux leur semence sur la terre. Il en fut ainsi. La terre fit sortir de la verdure, de l'herbe portant semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits qui ont en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit, c'est le troisième jour, c'est pas petit, quatrième, c'est pas important. C'est le point de vue de la vie, troisième jour, terminé. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour les époques. Très important. Qui servent de signe pour les époques. Hein. Voyez bien, c'est toute la question de comprendre la signification des astres. Les astres doivent servir de signe, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres, de nouveau. Une seconde séparation, seconde division. Et Dieu vit que cela était bon, il eut un soir, il eut un matin, quatrième jour. Donc le quatrième jour, vous voyez, c'est le point de vue de la structure des luminaires, du soleil et de la lune. Dieu dit que les eaux pullulent d'un pullulement d'êtres vivants. Alors ici, ce n'est plus seulement la vie végétative, c'est la vie animale. Ce qui s'intéresse aux degrés de vie. Les degrés de vie sont dans l'écriture comme des degrés de vie. Hein. Il y a d'abord la vie végétative. La vie apparaît d'abord comme une vie végétative. Puis ensuite, la vie animale. C'est un autre jour. Donc c'est bien une distinction de degré de vie. Donc Dieu dit oui, que les eaux pullulent d'un pullulement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre à la surface du firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et dont les eaux pullulent selon leur espèce et toute la gent ailée selon son espèce. Alors évidemment, là encore, vous voyez, pour ceux qui sont dans la perspective de l'évolutionnisme, ça les intéresse énormément, ça. Parce qu'on commence par les monstres marins. Et c'est d'abord donc tout ce qui vient de l'eau qui commence. Et puis les oiseaux, c'est un peu plus évolué. Hein. On tend vers le bec. C'est bien évident. Alors, on voit très bien, d'abord, Dieu crée les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, selon leur espèce, et toute la gent ailée. Ça vient après, les oiseaux. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit. Alors, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est toujours liée à la fécondité. Fructifiez-vous, multipliez-vous, remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y a un soir, il y a un matin, cinquième jour. Donc le cinquième jour, c'est les oiseaux. La fine pointe du cinquième jour, c'est l'oiseau. Hein. C'est ça, c'est la vie animale. Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, selon les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez, quand on dit que ce récit est tout à fait selon l'évolution, il faut quand même un tout petit peu mettre un petit bémol. J'aime pas dire des choses comme ça parce que c'est tout à fait autre chose. Chaque fois, il insiste selon leur espèce. Selon leur espèce, pour montrer les degrés différents. Je termine. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le sixième mot. Alors là, on reviendra là-dessus. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse pour essayer de comprendre ce double récit, parce que je ne peux pas avoir une seule vision sur une chose aussi étonnante, aussi primitive que la création. Alors, le premier récit, c'est le récit de la lumière, la parole de Dieu. Le second récit, nous le verrons la fois prochaine, c'est le geste. Donc, toute la révélation est commandée par la parole et le geste.